Alors, le temps que Gilles Simon s'installe, il y a peut-être la place pour une question. Il y a quelques doigts qui se lèvent. Alors, bon, très très courte. Et je vais demander à Sylvain d'être aussi, lui, très court, s'il le veut bien. Je commence avec vous, et puis après, Pierre-Laurent, je te donne la parole.
Bonjour, Agathe Kalfala de Lecture Jeunesse. Je voulais juste donner une remarque sur l'abandon à 15-16 ans. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été forcément pris en compte, c'est la différence dans les médiathèques en particulier entre le secteur jeunesse et le secteur adulte. Or, moi, j'ai un ado typiquement qui a 15 ans et qui ne se reconnaît plus du tout chez les jeunes, parce qu'en plus, il mesure 1m85, donc il n'a pas du tout le format du mobilier de lecture jeunesse. Et lui, qui est un gros, gros lecteur de BD, typiquement, il ne sait pas où aller. Chez les adultes, c'est pas du tout, il se reconnaît pas, et chez les enfants, il n'y est plus. Bah, donc, je crois qu'il y a un abandon parce qu'il y a aussi un vide. Mais il y a aussi une
Alors, on peut pas séparation. Le démontrer tout à fait à partir des chiffres, mais vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est là où on pose vraiment le doigt sur un vrai problème. C'est quels seraient les moyens à offrir pour les ados qui commencent à se dire que finalement, s'ils veulent commencer à faire leur passage à l'âge adulte, comment ils peuvent se faire reconnaître sans, en trouvant leur place, finalement, sans atterrir dans les rayons jeunesse, parce que quand même, pas déconner non plus, et puis arriver, malgré tout, à continuer à lire de la bande dessinée. Donc il y a plein de questions de catégorisation, en fait, qui sont peut-être la manière dont nous-mêmes on catégorise les choses. Parce que finalement, c'est pas si évident. Dans les grandes librairies de bande dessinée, quand vous allez voir que souvent le public est plutôt un public adulte, il n'y a pas tant de jeunes que ça qui se présentent pour lire des bandes dessinées, on voit plutôt des personnes d'un certain âge maintenant, ou alors les jeunes, ils sont dans le rayon manga en train de lire par terre.
Je voudrais une remarque aussi, mais c'est quelque chose qui me semble être un peu dans l'angle mort depuis ce matin, c'est la question du coût de la bande dessinée. Acheter de la bande dessinée, alors si on enlève la question des médiathèques et des bibliothèques, ça coûte cher. Donc on peut comprendre aussi que certaines catégories socio-professionnelles soient plus enclines à en acheter que d'autres, d'une part. Qu'à l'âge de 15 ans, au moment où c'est plus les parents qui achètent les bandes dessinées, on fait des choix sur son argent de poche entre bande dessinée ou autre chose. Ouais. Et puis, peut-être que ça vient se croiser aussi avec un autre phénomène, les stratégies des éditeurs. Je pense aux séries à rallonge. Je pense que dans les mécanismes d'abandon, il faut aussi compter ça. C'est un lecteur qui achète tous les Torgal, tous les 13, tous les Largo Winch qui sortent année après année. D'une part, qu'on capte tout son pouvoir d'achat de bande dessinée, on va dire, est capté par ça. Et puis, au bout d'un moment, il commence à se lasser par la qualité déclinante. Et c'est ce que tu disais, Sylvain, c'est les lecteurs qui lisent un seul style de bande dessinée sont parmi ceux qui abandonnent le plus facilement. Oui, à 25 ans, on en a marre d'acheter les Torgal, d'acheter les 13 et d'acheter les... Et puis, on n'a pas trouvé son chemin vers autre chose, quelque part. C'est aussi le résultat de la stratégie éditoriale de prolonger artificiellement des séries qui devraient peut-être mourir au bout d'un moment.
Il y a deux manières de répondre à la question. Il y en a une rapide et méchante qui est de dire finalement, qu'est-ce que Van Damme fait de mal à la bande dessinée ? Non, je plaisante, c'est parce que tu as cité uniquement 13 éditoriales, mais je suis d'accord. Alors, la question des stratégies éditoriales, c'est peut-être ce qu'on questionnera davantage justement pendant la table ronde, donc je ne vais peut-être pas aller trop loin sur le sujet, mais effectivement, il y a la question des éditeurs, enfin, tous les espaces, même la question dont on parlait tout à l'heure, la manière dont on présente finalement les collections, tout ça, on en débattra dans la table ronde pour essayer de comprendre, justement, lorsqu'on est éditeur, libraire, bibliothécaire, comment on fait finalement pour mettre en œuvre des passages qui permettent de garder les choses. Alors, une seule chose cependant, sur ce que tu disais, la question du pouvoir d'achat, parce que on n'a pas de données là-dessus, mais je pense que ça sera un point vraiment important à considérer. Ça, je suis d'accord. Mais je n'ai pas les données.
Voilà. Merci Sylvain. Bon, je pense qu'on va... Ah.
Éric Maigret, Paris 3. Non, une petite question rapide. Mais moi, je te suis, je valide complètement les effets de légitimité que tu mets en évidence à la fin. Ils sont bons statistiquement. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a quand même un effet d'imposition dans l'enquête ? C'est-à-dire que l'immense apport de cette enquête, ça a été de donner des noms au-delà de bandes dessinées, c'est-à-dire manga. Bon, manga, ça passe à peu près. Roman graphique, comics, et tu l'as évoqué un peu subrepticement. Je ne suis pas certain de savoir ce que les gens ont compris, voulu signifier à travers comics. Comics renvoyant d'ailleurs peut-être à comique aussi par certains côtés pour beaucoup de personnes.
À la passation des questions, il y avait des exemples.
Hein. Oui, je sais bien.
Ouais. Bah oui, mais, ça donne des indications.
Quoi. C'est pas sûr que les exemples. Voilà, et roman graphique aussi, il y a des connotations liées à roman, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est du côté du lectorat, mais on sait bien que du côté aussi de la production, les choses sont pas simples, puisqu'une grande partie des créateurs de romans graphiques sont des créateurs de comics. Donc voilà, ces choses-là sont intéressantes à analyser aujourd'hui. On les prend là immédiatement avec ce vocabulaire qui est nécessairement imparfait, mais qui est évidemment un immense apport par rapport à ce qui n'a jamais été fait avant. Quoi.
Pour répondre très brièvement, en fait, je vais rebondir sur ce que dit Gilles. Il me semble que sur les comics, on peut faire la vérification avec super-héros, et quand on l'a fait, ça marche d'autant mieux. Donc je vais le dire comme ça. Là, du coup, j'y crois vraiment. Par contre, alors je suis d'accord quand même avec toi, mais pas à ce niveau-là sur l'imposition. En fait, c'est sur la position des parents. Alors, ça sera plus détaillé dans le chapitre, mais en fait, on voit très bien que les parents, souvent, ils disent « Non, mais la bande dessinée, c'est sûrement, ça amène à d'autres lectures, ça a des vraies qualités. » Enfin, il y a tout un ensemble de questions qui permet de montrer les choses, mais en fait, on s'aperçoit que finalement, ça n'a pas forcément un poids très net sur les enfants. Et alors, dans ce cas-là, la question, c'est est-ce que finalement, les enfants sont bien... Enfin, il y a l'imposition par l'enquête, parce que l'enquête les oblige à se poser la question. Mais en fait, est-ce qu'ils se l'étaient posé avant? Est-ce qu'ils en parlent à leurs enfants dans ce sens en disant « c'est bien, tu devrais lire de la bande dessinée ». Peut-être même qu'il y a des enfants qui ne savent pas que leurs parents pensent que la bande dessinée, finalement, ce n'est pas seulement fait pour les enfants ou que ça peut entraîner vers d'autres lectures. Je veux dire, là, il y a un effet d'imposition, me semble-t-il, parce qu'on a des représentations des parents qui sont très hautes et vraiment qui disent finalement, enfin, tous globalement, on trouve que la bande dessinée, c'est drôlement bien. Mais quand on regarde les effets d'incitation, est-ce que tu as conseillé à ton enfant? Là, les chiffres ne sont pas en rapport. Donc, il y a un problème. Et là, à mon avis, il y a un effet d'imposition de l'enquête.
Donc, on va passer à l'intervention suivante. Donc, je précise, alors, circulation de la bande dessinée. Donc, je précise que...
Oui, maintenant, ça doit marcher.
C'est bon.
Oui, donc, je précise concernant cette intervention qu'elle est un petit peu inhabituelle, puisque... initialement, donc, c'est Xavier Guilbert qui a travaillé sur l'analyse concernant la circulation de la bande dessinée qui, normalement, aurait dû se trouver devant vous pour livrer ces conclusions et qui, malheureusement, ne peut pas. Et Gilles Simon, donc, directeur de la Cité, pardon, a bien voulu, et je l'en remercie d'ailleurs, accepter de présenter à la place de Xavier ses conclusions. Donc, je pense qu'il a quand même un peu mis son grain de sel.
Un peu.
Mais voilà, donc je te cède la parole. Voilà.
Oui. Oui, donc c'est effectivement très, très inhabituel. Moi, en général, quand je fais des interventions, communications, conférences, l'horreur de la présenter au public est compensée par le plaisir de la préparer. Là, c'est le pire cauchemar. Je n'ai pas préparé. Je vais vous présenter un travail de quelqu'un d'autre. C'est un rôle un peu nouveau. C'est acteur de conférence. Il y a des acteurs de composition, acteur de conférence. Et comme dirait Philippe Meyer, la prochaine fois, je vous le chanterai. Donc oui, je ne me permettrai pas d'ajouter mon grain de sel, sauf peut-être, mais je le signalerai, au travail de l'expert en numérologie qui est Xavier Guilbert. Donc je vais plutôt vous lire. En plus, il l'a remis très tard, donc je n'ai même pas eu le temps de me le mettre en bouche en plus. Donc je n'ai pas pu faire de répétition. Mon metteur en scène n'était pas disponible. Voilà. Donc depuis plus d'un demi-siècle de discours critique, l'image populaire de la bande dessinée, construction qui prend ses fondations, dit-il, dans le slogan du journal de Tintin, vous savez, le journal des jeunes de 7 à 77 ans, entretient également autour d'elle l'idée d'une lecture rassembleuse. Dans les pages de Circus au milieu des années 80, les éditoriaux d'Henri Filippini, grand éditorialiste, ne cessent d'évoquer notre cher BD. B-E-D-E. Exactement ce que l'on désigne désormais comme le discours amoureux, un discours implicitement partagé. Près de nous, dans un article du Monde des Livres, Alain Boeuf-Méry s'inscrit dans le prolongement en affirmant sans détour « Un livre acheté sur 8 est un album de bande dessinée. En bibliothèque, c'est un ouvrage emprunté sur 5. La BD apparaît comme le livre le plus convivial, le seul qui rassemble toutes les générations. » Et à cet égard, le prix qui a été créé par le Festival de la bande dessinée, qui était le prix qui s'appelait Intergénération, décerné à une œuvre transgénérationnelle, vous admirerez la variété lexicale, entre 2010 et 2012, vous êtes également un témoin de cette volonté de décrire la bande dessinée comme rassembleuse. Donc, alors que les lecteurs de bande dessinée semblent revendiquer l'appartenance à une communauté, qu'en est-il réellement des dynamiques de circulation de la bande dessinée, pas seulement entre générations, bien entendu. Donc, dans un premier temps, Xavier s'attache à établir une cartographie de la circulation de la bande dessinée, en couvrant l'ensemble des pratiques qui y sont associées. Alors on va passer assez rapidement là-dessus, parce que ça mérite d'être étudié plus longuement dans le texte qui sera publié. Mais ensuite, dans un second temps, on s'attachera, en s'appuyant sur les résultats de l'enquête, à mettre en évidence les vecteurs les plus marquants de cette transmission. Alors, la plupart de ces données couvrant des territoires jusqu'ici inexplorés, on ne s'étonnera pas que cette présentation soulève plus d'interrogations qu'elle n'apportera de réponses, en plus. Ah, c'est dit, c'est vous, je vous assure, c'est dur. Spectacle d'une souffrance. Alors, tentative de cartographie, donc. Pardon ? Ah, tu téléphones ? Traditionnellement, l'œuvre de bande dessinée est associée à son support physique. Et donc établir la cartographie de la circulation de la bande dessinée passe tout d'abord par l'identification des lieux où elle est présente. Avec évidemment la variable numérique qui interviendra, rassurez-vous. Comme ceux-ci peuvent ressortir soit de personnes physiques, soit de personnes morales, des entreprises, des administrations publiques, des associations, on aboutit à une première typologie qui est collection particulière, personnes physiques, collection destinée à la consultation et au prêt, administration publique ou association, les bibliothèques pour l'essentiel, et stocks commerciaux, c'est donc la sphère commerciale des entreprises. On se bornera à l'usage dominant dans chacune des catégories, puisque, bien sûr, il y a des cas particuliers, par exemple les bibliothèques d'entreprise, qui ne sont pas destinées au commerce, mais à la consultation et au prêt, et donc on ne l'associera pas au domaine de l'entreprise commerciale. À l'inverse, le cas des collections particulières mérite d'être précisé. Tout d'abord, il apparaît naturellement que la collection personnelle du lecteur, qui est au centre de notre attention, occupe une place à part dans cette cartographie. Et par ailleurs, les collections des personnes appartenant au même foyer présentent une accessibilité accrue, bien sûr, par rapport à l'ensemble des autres ressources qui nécessitent un déplacement à l'extérieur du foyer. Donc, cinq sphères émergent ainsi pour notre cartographie. Alors, retenez bien ce tableau, enfin cette liste, parce que vous en aurez besoin pour tout le reste de la présentation. Mais rassurez-vous, je voulais insérer en légende dans les diapositives suivantes. Donc la sphère personnelle, on appellera P. Retenez bien cette lettre. Parce qu'en plus, c'est très compliqué, ce que j'ai à vous présenter. Une sphère familiale qui est le F, qui relève des autres personnes du même foyer. La sphère sociale, S, c'est l'ensemble des collections particulières hors du foyer, les amis, etc., la famille, hors du foyer. Une sphère institutionnelle, I, qui regroupe l'ensemble des espaces destinés à la consultation et au prêt. Et enfin, une sphère commerciale, l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, susceptibles d'établir une transaction marchande avec un particulier, les auteurs, les éditeurs, les points de vente, les sites de vente par correspondance, etc. Donc ces sphères se répartissent au sein d'espaces différents que l'on peut identifier, de foyer contre extérieur, comme évoqué plus haut. Alors donc, à ce moment-là, on a PF contre SIC. Les particuliers contre les professionnels, PFS contre IC. Et le gratuit, en plus, je ne m'attendais pas à ça, c'est un comique. Et le gratuit contre le marchand, PFSI contre C. Et ça marche, hein. Donc, sans surprise, la grande majorité de ces flux correspondent à une transaction de type plus 1 moins 1 transaction. C'est-à-dire le correspondant à un transfert de propriété. Hein. On appauvrit numériquement un stock pour en enrichir un autre. Seules deux modalités, la consultation et l'échange, correspondent à une transaction de type 0-0, laissant les deux collections inchangées. On consulte sur place, on n'importe pas, et puis on échange, c'est plus ou moins un et plus ou moins un. Voilà. Ah là, ça se complique. Non, non, vous inquiétez pas, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Surtout qu'elle a une variante. Alors, il est important de signaler ici que, comme pour les autres sphères, la sphère commerciale accepte, voire encourage, la consultation des ouvrages. Elle encourage... par exemple, la FNAC, rappelez-vous cette campagne publicitaire, enfin, ces spots de la FNAC qu'on voyait au cinéma, où on voyait Jean-Luc qui était affalé entre les rayons à lire une bande dessinée. Puis le slogan, c'était « Maintenant, nous, à la FNAC, on aimerait bien aussi que Jean-Luc nous achète un jour un livre. » Voilà. Et c'était ensuite devenu un autre slogan « Nous avons tous les livres, vous avez toutes les libertés. » Voilà. Et ça s'est traduit également dans les espaces par la création d'un espace de consultation à la FNAC des Halles qui s'appelait Espace Passion BD, encourageant la pratique qui, de toute façon, était constatée. Alors, la révolution numérique, je vous avais dit qu'on y viendrait. Par rapport au circuit bien établi des biens physiques, l'arrivée d'Internet et de la bande dessinée numérique entraîne une évolution de cette cartographie et de son fonctionnement. On peut identifier deux impacts importants. D'une part, l'introduction d'Internet vient brouiller la frontière qui existait entre le foyer immédiatement accessible et l'extérieur qui nécessite de se déplacer, puisqu'on peut accéder à l'extérieur depuis son ordinateur. Donc, voilà, Amazon, etc., on passe. Mais c'est aussi l'élargissement considérable de la sphère sociale qui constitue l'évolution la plus radicale de ce rapport à la transaction, puisque les interactions entre lecteurs s'affranchissent désormais des considérations géographiques pour s'inscrire dans une dimension globale, les forums, etc. Et puis enfin, la dématérialisation de la bande dessinée vient redéfinir les flux régissant la circulation. Donc là, évidemment, la manifestation la plus connue, la plus médiatisée, c'est les blogs, mais la sphère institutionnelle a su également mettre à profit ces nouvelles modalités, permettant notamment l'accès à des archives comme nous le faisons, comme la BNF le fait, vous voyez Gallica et les collections numérisées par des institutions comme les nôtres. Ensuite, la grande majorité des transactions observées, là où elles étaient du type plus 1, moins 1, le numérique introduit un nouveau mode de transaction de type plus 1, 0. Voire, dans le cas de l'échange, une transaction de type plus 1, plus 1. Je te donne, et puis tu me donnes, mais on n'échange pas. Ce changement se révèle pour les acteurs commerciaux à double tranchant. En effet, l'appauvrissement mécanique des stocks, avec une contrepartie financière, se substitue à un enrichissement net dans le cadre d'un achat. Mais la disparition de la rareté intrinsèque de l'objet physique, pas d'épuisement, pas de rupture, marque également la fin d'un monopole de fait de ces acteurs sur la production et reproduction et la mise à disposition du support des œuvres, puisqu'elles sont désormais accessibles aux particuliers et transforment les pratiques de prêt ou d'échange le peer-to-peer constituant alors l'illustration la plus globalisée de ces échanges. Donc, dans cette nouvelle donne, Internet, la bande dessinée ne circule plus, elle se propage. Nuance. Donc, face à cette évolution, les éditeurs, mais aussi les auteurs, tentent de s'adapter. On observe ainsi une résurgence du système d'abonnement, comme par exemple la BD Novella, Les Autres Gens. Les revues qui ont vu le jour récemment, hein, Mauvais Esprit, La Revue Dessinée, etc. Voilà, c'est un nouveau mode de fidélisation. Et puis, il faut souligner également le choix d'un système de streaming qui est préféré de plus en plus au téléchargement par les plateformes commerciales, qui vise à reproduire dans ce nouvel écosystème un contrôle relatif de la chaîne commerciale sur la diffusion. évidemment, le streaming n'est pas adapté par les pirates qui, eux, transfèrent les fichiers. Dans ce contexte numérique, la recomposition des flux aboutit à la situation suivante, dans une sphère sociale élargie. C'est assez difficile de comparer ce tableau-ci. Ah non, c'est celui-ci, voilà. Voilà. Vous voyez la petite étoile S avec un petit astérisque. Ça, c'est la sphère sociale élargie, c'est avec le numérique. Ça change tout, n'est-ce pas? Vous moquez pas. Parce qu'après, il y a ça. Allez, on passe. Alors, maintenant, on va vraiment parler des données de cette étude pour s'inscrire dans cette catégorisation des échanges. Alors, ce à quoi nous nous sommes attachés ici... Ah oui, c'est beau, ça, hein. Ah, c'est un peu trop tôt, là. Non, mais attendez. Non, j'y suis trop tôt. Les données auxquelles on s'est attaché dans l'étude. Si on se réfère à la catégorie qu'on avait tout à l'heure, je reviens à celle-ci. Dans la sphère personnelle, c'est le nombre de bandes dessinées papier possédées, la relecture de ces bandes dessinées, la lecture de bandes dessinées au format numérique et le nombre de bandes dessinées au format numérique possédées. Dans la sphère familiale, c'est le nombre de bandes dessinées papier possédées par une autre personne du foyer et la discussion autour de la bande dessinée avec parents ou enfants. Dans la sphère sociale, c'est le nombre de bandes dessinées empruntées à une personne extérieure au foyer, la discussion autour de la BD avec collègues et amis, et la discussion autour de la BD sur des forums sur Internet, ainsi que le nombre de BD au format numérique échangé. Dans la sphère institutionnelle, c'est le nombre de visites à une bibliothèque ou une médiathèque, le nombre de BD lus à la bibliothèque, le nombre de BD empruntées à la bibliothèque. Quant à la sphère commerciale, c'est le nombre de bandes dessinées papier achetées, le lieu habituel d'achat de bandes dessinées papier et le nombre de bandes dessinées au format numérique acheté. Donc, pour les besoins de l'étude, on s'appuie sur ces indicateurs, sur une pratique générale qui regroupe l'ensemble des individus ayant déclaré y avoir eu recours au moins une fois dans l'année et une pratique soutenue qui se définit par une collection de 50 bandes dessinées ou plus, une fréquence élevée déclaré comme souvent ou très souvent de lecture ou d'emprunt, 6 visites ou plus dans l'année à une bibliothèque, et au moins une fois par mois le nombre de bandes dessinées empruntées à une personne extérieure, ou le nombre de bandes dessinées échangées. Voilà, donc c'est ça qui nous donne ce très beau tableau. Et on distingue 3 catégories de lecteurs. Les lecteurs occasionnels qui déclarent avoir lu au moins 5 bandes dessinées, enfin moins de 5 bandes dessinées au cours des 12 derniers mois, c'est 21% des lecteurs actifs. Les gros lecteurs qui déclarent avoir lu plus de 20 bandes dessinées au cours des 12 derniers mois, c'est 28% des lecteurs actifs. Et puis entre les deux, les lecteurs moyens, 51% des lecteurs actifs entre 5 et 19 bandes dessinées au cours des 12 derniers mois. Alors, c'est là que ça se complique, je vous assure. On va vous expliquer ça. Alors, la mise en perspective conjuguée de pas moins de 15 variables, c'est tout ce que je viens de vous dire, hein, entre les pratiques et le type de lecteur, ça fait 15 variables. Dans le cadre d'une tentative de cartographie, c'est évidemment impossible. Donc, Xavier a opté pour une représentation simplifiée, c'est lui qui le dit, en essayant de quantifier par un indice calculé l'investissement des lecteurs considérés dans chacune des sphères identifiées, les sphères étant psychiques. Pour cet indice, on a fait le choix de regrouper par sphère les variables correspondantes et de valoriser les pratiques soutenues par rapport à celles moins impliquées selon cette formule. Indice égale pratique générale plus 2 fois la pratique soutenue fois 100. Bon, mais c'est pas si compliqué. Un indice 100 correspond donc, par exemple, à des doublons, comme un taux de pratique générale et pratique soutenue de 100% pour la pratique générale, 0% pour la pratique soutenue, ou 50-25 ou 33-33. Donc ça regroupe des situations contrastées, mais ça correspond à un investissement fort dans la pratique. Et les pratiques liées au numérique ont été traitées à part. C'est la deuxième ligne. Eh oui, mais c'est pas compliqué. Hein. On multiplie à nouveau par la lecture numérique. Et donc les 5 indices principaux ainsi obtenus, les PSIC, sont affichés dans un graphique en radar. C'est le plus approprié, c'est le plus adapté à la question, mais c'est le plus compliqué à lire. La dimension numérique est figurée par un cercle plus ou moins important. Hein, le cercle foncé, c'est l'indice 100. Donc on peut voir là la cartographie réalisée pour l'ensemble de la population des lecteurs âgés de 15 ans et plus. Donc je sais pas si on voit bien, si vous voyez bien en bas la légende. Hein, on vous rappelle ce qu'est PSIC, la sphère personnelle, la sphère familiale, la sphère sociale, la sphère institutionnelle, la sphère commerciale. Donc en radar, en étoile comme ça. Donc le tableau vous permet de voir quelles sont les données qui servent à établir cette étoile. Les indices calculés, c'est 106 pour le P, 88 pour le F, 84 pour le S, 56 pour l'institutionnel, 88 pour le commercial. Et numérique 10, qui vient corriger. Et donc l'indice 100, c'est l'indice sombre, c'est la ligne sombre. Alors, considérant la population des lecteurs actifs de 15 ans et plus, on observe un investissement important dans l'ensemble des sphères de notre cartographie, à l'exception de la sphère institutionnelle, très courte. On a dit sphère institutionnelle 56, qui apparaît sous-exploitée par le lectorat. La dimension numérique semble pour l'instant marginale, bien qu'elle s'établisse déjà comme un espace d'échange d'informations autour de la bande dessinée, autour de 10%. Cependant, les pratiques soutenues ne concernent qu'une part réduite des lecteurs, entre 15% et 18%, à l'exception des collections papier, qui concernent un tiers des lecteurs. Le numérique ressort encore comme marginal, avec seulement 1% des lecteurs possédant des collections conséquentes, mais semble indiquer une installation à venir par l'achat et l'échange, qui font preuve d'un dynamisme plus marqué, puisqu'ils concernent 5% des lecteurs au global. Donc 1% possède des collections numériques, mais 5% pratiquent l'échange. Sans que cela représente vraiment une surprise, on observe que l'intensité de lecture est un déterminant de l'investissement du lecteur dans les différentes sphères de circulation, ainsi que son inscription dans la dimension numérique. Voilà, vous voyez l'investissement des lecteurs occasionnels et dans des gros lecteurs. Je vous laisse observer. L'écart entre les lecteurs occasionnels et les gros lecteurs est particulièrement marquant dans les pratiques de relecture. C'est 18% des occasionnels contre 70% des gros lecteurs. 70% des gros lecteurs relisent. Dans les pratiques aussi d'emprunt hors du foyer, c'est 28% chez les occasionnels, 54% chez les gros lecteurs. De lecture ou d'emprunt en bibliothèque, 7 et 13% respectivement. Lecture ou emprunt, 7% et 13% lecture-emprunt pour les occasionnels, 38 et 41% pour les gros lecteurs. Et puis les pratiques d'achat, évidemment, 35% pour les occasionnels et 75% pour les gros lecteurs. En fait, pour chacune de ces variables, on constate que la pratique soutenue est plus répandue chez les gros lecteurs que la pratique générale chez les lecteurs occasionnels. Donc ça, ces indicateurs révèlent, ce n'est pas non plus une grande surprise, un lecteur occasionnel qui est peu investi et peu enclin à aller à la rencontre de la bande dessinée. Ainsi, parmi les lecteurs occasionnels fréquentant une bibliothèque, 1 sur 6 déclare y lire les bandes dessinées, et un peu moins d'un tiers y ont emprunté contre 36 et 45% des lecteurs moyens. À l'inverse, les gros lecteurs apparaissent comme très actifs dans tous les domaines. C'est une étoile dont toutes les branches sont étendues et investissent massivement les sphères commerciales et institutionnelles. Ils sont par ailleurs déjà bien engagés sur le numérique, puisque 22% d'entre eux déclarent lire des bandes dessinées au format numérique. Et 29% ont déjà participé à des discussions autour de la bande dessinée sur Internet. Ils ont aussi de très loin les plus, ils sont aussi les plus nombreux à posséder, échanger ou acheter des bandes dessinées numériques, enfin au format numérique. D'une certaine manière, le lieu d'achat de la bande dessinée reflète ces différents comportements, avec un investissement progressif en fonction de l'implication du lecteur. Y compris les gros lecteurs, sur les, ils vont jusqu'à écumer les braderies, les dépôts ventes, les solderies, les brocantes. Voilà. Ensuite, donc, je, sais pas, je vous laisse détailler un peu ceci. À travers les âges, si l'intensité de lecture influence directement l'investissement du lecteur dans l'ensemble des sphères de la circulation de bande dessinée, les choses se révèlent plus complexes lorsqu'on considère les différentes classes d'âge, qui mettent bien souvent en jeu des facteurs liés en premier lieu à la situation de vie du lecteur. Et là, on aura justement des indications sur les questions de pouvoir d'achat dont on parlait tout à l'heure. On note que la sphère familiale est particulièrement investie par deux sous-populations, à savoir les 15-17 ans et les 40-49 ans. Le pic qu'on constate pour les 40-49 ans est la conséquence directe de la présence d'adolescents au sein du foyer. Parce que c'est aussi statistiquement, démographiquement, évidemment, là qu'on connaît un pic, c'est chez les 40-49 ans. De même, la sphère institutionnelle apparaît comme très investie par les plus jeunes, 15-17 ans, dont le contexte scolaire favorise certainement cette pratique. On les pousse à aller à la bibliothèque, il y a le CDI, etc. On observe par ailleurs une résurgence pour les 30-39 ans, sans trop savoir pourquoi. Et la lecture sur place est une pratique relativement jeune qui se retrouve supplantée par l'emprunt au-delà de 30 ans. Vous voyez donc ce tableau-ci. Dans la sphère institutionnelle, on voit que, la lecture sur place cède la place à l'emprunt au-delà de 30 ans. Par ailleurs, la forte diminution des achats que l'on observe chez les 18-24 ans, alors statistiquement, c'est 46% des lecteurs de cette tranche d'âge contre 57% en moyenne pour l'ensemble des lecteurs. Donc cette diminution des achats à cet âge-là s'explique par les importants changements de vie qui se déroulent à cette période. Conduit des études, entrée dans la vie professionnelle, installation en couple. Si 95% des 15-17 ans vivent encore chez leurs parents, en revanche, 70% des 25-29 ans vivent en couple. Donc cette période de transition, qui se passe entre les deux là, se retrouve également sur la possession de bandes dessinées qui fléchit à 18-29 ans. Il est probable que le fait de quitter le foyer parental, laissant derrière soi une collection parfois volumineuse de bandes dessinées qu'on ne peut pas loger dans le petit studio qu'on va prendre pour débuter dans la vie, est à l'origine de ce passage à vide. Et là, les parents se frottent les mains. Si plus d'une collection sur deux, c'est-à-dire 53%, compte moins de 50 volumes, il faut souligner combien la constitution d'une collection de bandes dessinées s'inscrit dans le temps, évidemment, avec un phénomène d'accumulation. Voilà, donc, plus on vieillit, plus on en a. Et je ne parle pas des cheveux blancs. Deux aspects semblent relever d'une question générationnelle. Un décrochage pour l'ensemble des pratiques pour les lecteurs actifs de 60 ans et plus. Alors, des investissements de la sphère familiale, puisque les adolescents et les jeunes adultes sont partis du foyer. Donc, l'enrichissement par échange d'informations ou de bande dessinée elle-même, évidemment par le départ des jeunes du foyer. Et puis la sphère sociale, qui est peu investie également, qui souffre probablement des effets conjugués des dynamiques sociales propres au troisième âge, mais également de la faiblesse marquée d'une culture bande dessinée au sein de cette génération, ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Cela est particulièrement visible lorsque l'on considère le taux cumulé de lecteurs et d'anciens lecteurs par classe d'âge. Et donc ça, je vais passer, puisque Sylvain nous en a fait un long exposé. Alors, on observe que la dimension numérique est essentiellement... Ça, c'est ce que vient de nous dire Sylvain. La dimension numérique est essentiellement investie par les moins de 40 ans et en particulier par les 18-29 ans. Cette forte affinité peut s'expliquer par la familiarité avec la technologie, évidemment, des jeunes, mais également par un transfert s'opérant entre la sphère commerciale traditionnelle du papier vers le numérique et ses pratiques de partage. Les changements liés à la période de transition des 18-24 ans qu'on a évoqué précédemment peuvent partiellement évoquer cette évolution et expliquer cette évolution. Parlons des non-acheteurs et des non-possesseurs. Et puis j'accélère, mais j'ai bientôt fini. Dans cette cartographie de la circulation de la bande dessinée, deux populations de lecteurs méritent qu'on s'y attarde. D'une part, les lecteurs qui n'achètent pas de bande dessinée et qui sont donc, par définition, absents de la sphère commerciale, le C. C'est 43% des lecteurs. D'autre part, les lecteurs qui ne possèdent pas de bande dessinée, il y a 15% des lecteurs, alors même que la collection semble très étroitement associée avec la pratique de lecture. Ces deux populations, ceux qui n'achètent pas et ceux qui ne possèdent pas, présentent les mêmes particularités de compter un faible taux de gros lecteurs, c'est-à-dire 16% des non-acheteurs, 11% des non-possesseurs, au profit des lecteurs occasionnels, 32% des non-acheteurs, 37% des non-possesseurs. La part des lecteurs moyens, à 52% dans les deux cas, étant proche de celle que l'on observe au sein de la population globale. Donc là, on est vraiment au médian. Parce que c'est 52% dans les deux cas, et dans la population globale des acteurs, des lecteurs de plus de 15 ans, c'est 51%. Donc on est dans la moyenne. On retrouve également une surreprésentation des 18-24 ans dans ces deux populations, de non-acheteurs et de non-possédants. C'est 20% des non-acheteurs, 21% des non-possédants, contre 16% de l'ensemble des lecteurs. Donc ceci pouvant s'expliquer aussi par ce que nous avons dit sur la précarité de cette tranche d'âge entrant dans la vie active. Il apparaît que le profil de ces deux populations est très proche de celui des lecteurs occasionnels. Ainsi, les non-acheteurs se démarquent essentiellement par leur fort taux de relecture, 33% contre 18% pour l'ensemble, ainsi qu'un recours plus fréquent à la bibliothèque. 15% y lisent, contre 7% de lecteurs occasionnels, et 21% y empruntent des bandes dessinées, contre 13% de l'ensemble des lecteurs occasionnels. Les non-possesseurs, eux, s'appuient sur la collection familiale, puisque 50% d'entre eux font état de bandes dessinées au sein de leur foyer, contre 41% pour les lecteurs occasionnels. Le fait de ne pas avoir de collection en propre ne les empêche pas d'acheter. 28% d'entre eux ont acheté au moins une bande dessinée au cours des 12 derniers mois. Mais surtout, 7% d'entre eux déclarent avoir réalisé plus de 10 achats. Donc, il est probable que ces achats sont, puisque ce sont les non-possesseurs, sont destinés à un membre de la famille dont le lecteur ensuite bénéficiera. Il offre au papa ou au fiston pour... lire ensuite, je sais, je le fais. Par contre, à la différence des lecteurs occasionnels, qui sont assez peu investis dans la dimension numérique, les non-acheteurs et les non-possesseurs sont relativement actifs dans cette sphère, enregistrant respectivement 12% et 10% de lecteurs de bande dessinée au format numérique, contre 5% de l'ensemble des lecteurs occasionnels. Les voilà. Un dernier petit point juste sur les mangas, un domaine de prédilection de Xavier, comme chacun sait. Donc avant de se lancer dans l'examen des profils de lecteurs, il faut souligner que l'on considère ici les pratiques particulières de lecteurs déclarant lire du manga. Ces pratiques n'étant pas limitées au seul manga et pouvant porter sur d'autres genres de bande dessinée, comme on l'a vu. Au sein de la population des lecteurs âgés de plus de 15 ans, 29% déclarent lire du manga. On note que les gros lecteurs y sont nettement surreprésentés, c'est-à-dire 46% contre 28% pour l'ensemble des lecteurs, donc au détriment des lecteurs moyens occasionnels. Mais ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire gros lecteur, consommateur de tout type de bande dessinée. Les gros lecteurs font preuve, on l'a déjà vu, d'un investissement plus important dans l'ensemble des sphères de circulation de la bande dessinée, et leur surreprésentation au sein des lecteurs de manga se traduit immédiatement sur ce graphique-là. Vous voyez, donc on a le graphique qu'on connaissait, le premier, tout premier, rappelez-vous, et on a l'équivalent pour les mangas, et là on se rend compte que ça élargit déjà considérablement le rayon. Deux spécificités cependant ressortent. D'une part, on note un investissement nettement plus marqué dans la sphère sociale, qui est présent à la fois chez les lecteurs moyens et chez les gros lecteurs. Ça correspond à une proportion plus élevée à discuter de bande dessinée avec des amis ou des collègues quand on lit du manga. 84% des lecteurs moyens et 88% des gros lecteurs parmi les lecteurs de manga, contre 71% et 78% sur l'ensemble des lecteurs de bande dessinée. 71% des lecteurs moyens, 70% des gros lecteurs. Mais également à recourir à l'emprunt, puisque c'est 50% des lecteurs moyens et 61% des gros lecteurs de manga qui recourent à l'emprunt, contre 35% et 54% sur la population totale de lecteurs moyens et gros lecteurs. Donc c'est vraiment beaucoup plus. La dimension sociale se double d'une dimension générationnelle. Donc là aussi, on a le facteur âge, puisque les lecteurs de manga constituent une population relativement jeune, ça n'étonnera personne, avec 81% en dessous de 40 ans et 56% en dessous de 30 ans, contre 55% et 35% pour l'ensemble des lecteurs. Donc 81 contre 55, 56 contre 35. 39% des lecteurs de manga déclarent avoir fréquenté un festival de bande dessinée contre seulement 26% pour l'ensemble des lecteurs de bande dessinée, confirmant donc cet engouement particulier. Et c'est évidemment notamment Japan Expo et ses différents satellites, franchises, oui, qui peut l'expliquer. D'autre part, on note une inscription très marquée dans la sphère numérique chez les amateurs de manga, qui atteint des niveaux très importants. Population jeune, les lecteurs de manga présentent une affinité plus élevée avec la technologie, hein, en tout cas on peut se permettre de le dire, mais on peut également s'interroger sur l'importance des scantrads qui assouvissent l'impatience des lecteurs de manga. Tout le monde sait ce que c'est que le scantrad ?
C'est les bandes dessinées.
Couper le sifflet.
Non. Un phénomène de piratage de la bande dessinée japonaise. Donc, les séries qui circulent, qui sont mises à la disposition des lecteurs, des fans, sous forme de fichiers, et qui permettent, comme le dit Gilles, effectivement, de tromper l'impatience. Enfin, en tout cas, c'était ça le départ, hein, de tromper l'impatience des lecteurs. Et puis aujourd'hui, en réalité, c'est un mode de circulation parallèle, massif, de la bande dessinée japonaise. Donc, c'est du piratage. Hein, c'est illégal. C'est scanné et traduit pratiquement traduit. Simultanément avec la sortie sous papier ou en numérique, parfois même avant d'ailleurs la sortie dans certains cas.
Donc, conclusion. Vous voyez, je suis dans les temps en plus, c'est formidable. Presque. Trois minutes. Contrairement au portrait de collectionneurs chasseurs de dédicaces qui fleurissent dans la presse chaque année au moment de l'ouverture du Festival d'Angoulême, c'est bientôt, lui-même revendiqué comme la plus grande librairie de bande dessinée du monde, le lecteur de bande dessinée ne se réduit pas à sa seule dimension d'acheteur et démontre au contraire sa capacité à mobiliser l'ensemble des modalités d'accès à la bande dessinée qui lui sont proposées. La sphère commerciale, bien que présente, apparaît comme largement concurrencée par les pratiques d'emprunt et relève essentiellement d'un petit noyau de lecteurs très impliqués. Alors que le numérique y est encore restreint à une population relativement jeune, la croissance de ce secteur durant les deux dernières années laisse envisager son implantation à large échelle dans un avenir proche. Dans cette perspective, il faut souligner combien les choix stratégiques et techniques effectués par les acteurs de la sphère commerciale négligent, voire interdisent le prêt. Le prêt numérique est un vrai gros problème. La disparition, notamment pour les bibliothèques, la disparition à moyen terme de cette modalité d'accès à la bande dessinée pourrait avoir des conséquences diverses. la réduction du nombre de lecteurs occasionnels, perdant ainsi une part importante de leur exposition à la bande dessinée, lecture envers laquelle ils sont assez peu impliqués. Et puis le report des gros lecteurs vers les alternatives moins légales, mais plus souples vis-à-vis du partage et de l'échange, entraînant une diminution forte des achats. Et enfin, la remise en question à long terme de l'un des principaux vecteurs, ça c'est très important, l'un des principaux vecteurs de transmission entre les générations, à savoir à l'accès à la collection parentale, qui ne relèverait plus de l'évidence. Et là, je vous renvoie, parce que tout ça est très beau, très scientifique, dans la dernière phrase, puis après je ferai ma petite conclusion à moi. Face à cette révolution numérique annoncée qui recompose en profondeur nos usages et nos rapports au livre, et a fortiori à la bande dessinée, la question de la circulation et de son évolution future pourrait bien constituer un enjeu majeur pour le secteur. Donc, fin de son intervention. C'est vrai que c'est un enjeu majeur pour ce secteur, mais pas seulement. C'est un enjeu majeur pour d'autres secteurs, enfin, tous les secteurs de l'édition, de livres, de musique, de films, bien entendu. Et je renvoie à ce, là, c'est bien, je me fais le plaisir de citer dans, un, dans une journée assez universitaire tout de même, Bruce Willis, qui, il n'y a pas si longtemps, a lancé un grand cri de désespoir quand il a découvert qu'il avait, lui, dans sa collection, sur sa bécane, pour 2 millions de dollars de musique, de films, de livres, etc., numériques, et qu'il ne pourrait pas les transmettre à ses enfants. Et là, il a découvert ça brutalement, et il a lancé un grand cri d'alarme en disant « c'est dramatique ». C'est dramatique parce que ça esquinte complètement notre tradition de transmission de bibliothèque, de transmission d'un patrimoine culturel. Voilà. Et, bon, là, c'est Bruce Willis, mais c'est pas faux.
Merci pour cette très très belle conclusion.
Après. Moi, j'avais un autre tout petit point sur d'autres choses, mais enfin, on en parlera à la table ronde aussi, je pense. C'est qu'évidemment, tout ça et cette étude est absolument passionnante, mais c'est du déclaratif. Et c'est comme pour les statistiques sur ce que regardent les gens à la télévision. Je pense qu'il faudrait pouvoir le comparer avec les chiffres de vente et les statistiques des bibliothèques. Voilà, merci.
Merci. Alors là, on se trouve confronté à un problème assez sérieux qui est qu'on aurait dû faire une pause à 15 heures. Alors, je pense qu'on va malgré tout la faire parce que je suis là à l'avis de Benoît qui me dit on ne tiendra jamais l'après-midi si on n'a pas au moins une petite coupure. Donc je propose qu'elle soit petite, la coupure, pour les fumeurs qui, effectivement, en 5 minutes, vont pouvoir fumer et s'adonner. Donc oui, enfin 10 minutes maximum, on reprend après ça et on pourra rogner un petit peu sur le temps des conclusions.